Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Il est le rédacteur en chef du prestigieux magazine Transport routier. On l'a en ligne, on est bien fiers de ça. Steve Bouchard, comment ça va?
Ça va très bien, Benoît, toi aussi.
Ben oui, il faut tabarnouche. Steve, je sais qu'on a plusieurs sujets à jaser aujourd'hui, notamment de ce show de camion-là en Allemagne que tu as été visiter. Mais j'ai une question, moi, puis ça me brûle l'envie de te la poser. On parle beaucoup du phénomène du stratagème Chauffeur Inc., OK, depuis quelques mois déjà. Ça fait combien d'années, parce que tu es dans l'industrie du transport depuis belle lurette, ça fait combien d'années que tu t'es penché sur le dossier du Chauffeur Inc.?
Le premier article qu'on a écrit là-dessus, ça fait à peu près 15 ans.
Ça fait 15 ans?
À peu près, une quinzaine d'années.
Puis, il y a 15 ans, est-ce que c'était répandu au Québec ou c'était partout, c'était généralisé, c'était comment?
Non, c'était surtout en Ontario. C'était beaucoup en Ontario, puis on n'entendait pas parler, mais on a commencé à écrire parce que c'est un phénomène national. Je te mentirais dire qu'on prévoyait que 15 ans plus tard, le Québec serait vraiment affecté par ce phénomène-là, mais c'était prévisible. Là. À un moment donné, quand l'économie baisse puis qu'il n'y a plus assez de contrats puis que ce phénomène-là prend de l'ampleur, ben ils vont chercher les contrats dans les provinces à côté. Hein. Ça fait 15 ans.
15 ans.
C'est pas d'hier, là.
Sans être négatif, ça va prendre ça va prendre une décision politique. Je pense que ça ira pas par autre chose qu'une décision politique, ou en tout cas mettre énormément peut-être de pression éventuellement sur les décideurs pour que ça change. Mais visiblement, si en 15 ans, il n'y a pas eu grand dénouement, ça se peut qu'il y ait encore beaucoup de discussions à y avoir avant de dire que le problème est derrière nous, là.
Ouais, mais je te dirais que depuis un an ou deux, là, maintenant, même un an, il y a beaucoup, beaucoup de pression qui s'est mise par la Sécu, au point de vue politique, justement. Il y a des gens au fédéral, au provincial qui ont des comités de travail. Il y a un budget qui a été débloqué par le fédéral il y a deux ans, je crois, le budget d'il y a deux ans. Donc, oui, il se fait des choses, mais c'est un phénomène très compliqué. Puis, je vais te donner une anecdote, tu sais. Faut que ça vienne aussi des expéditeurs. C'est les expéditeurs qui utilisent ces transporteurs à rabais-là.
Parce que
justement, ils sont en rabais. Est-ce qu'ils se préoccupent de la façon que c'est transporté, du service, de la sécurité de ces véhicules-là? Probablement pas. On apprend de plus en plus que plusieurs de ces chauffeurs Inc.-là sont même pas assurés. Puis je parlais dans un événement il y a deux semaines qui regroupait des gens de logistique, dont des expéditeurs. Puis on me demande souvent qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Puis là, je dis ce qu'ils pensent. Ce qu'on parle beaucoup, c'est chauffeuring. Puis cet expéditeur-là savait même pas c'était quoi, là. Il n'avait aucune idée. Fait faut sensibiliser les gens, même dans l'industrie même, à ce que ce phénomène-là existe.
Oui.
Et qu'est-ce qui cause comme problématique.
Oui.
Écoute, est-ce que c'est réglé? Pas demain matin, certainement pas, parce que c'est très complexe. Faut que ça joue du côté fédéral.
Oui.
Beaucoup.
Okay. Effectivement. C'est ce qu'on verra peut-être dans la prochaine année, fin d'année 2024, début 2025. Ça restera à voir. Il y a des élections qui vont sûrement arriver. En fin de semaine, on voyait qu'il y avait même des gens au Parti libéral qui demandaient à M. Trudeau de quitter ses fonctions. Là, est-ce que le fait d'aller en élection, je pense pas que les gens vont vouloir régler les dossiers où il y aura pas de prise de position. Est-ce qu'un nouveau parti au pouvoir va décider de régler ça? Peut-être, peut-être pas. C'est ce qu'on verra là en début de mandat, parce que me semble c'est en début de mandat que tu règles tout ce qui est un peu chenoute, puis tous les dossiers plus qui divisent la population, puis que t'as à peu près 3 ans et demi à vrai ça pour régler un peu tes problèmes d'image que ça a recréé là.
Mais ouais, on verra. Parce qu'il se passe des choses du point de vue électoral, là, comme tu dis. Là, on verra s'il y a un changement de gouvernement, ce que ça changera dans les choses.
Oui, effectivement. Ouais. Tu as été dernièrement au Salon mondial, on peut l'appeler mondial, qui se déroule en Allemagne, tout ça. Qu'est-ce que, mettons, est la différence, avant qu'on parle de plein de sujets là-dessus, entre un salon ExpoCam, qui est de nature nationale au niveau Canada, et un salon comme celui de l'Allemagne qui regroupe à peu près tout le monde? On dirait que c'est la référence mondiale.
Oui. Oh oui, c'est énorme. C'est énorme dans le sens que ça couvre, c'est en Europe, mais ça couvre beaucoup, beaucoup le marché asiatique aussi. On voit un petit peu de trucs d'Amérique du Nord, mais c'est très, très axé là, Europe-Asie. C'est énorme dans le sens qu'il y a c'est à Hanovre, en Allemagne, ouais. Il y a 27 pavillons dans le centre de foire, si on veut, ça s'appelle la messe.
Mon Dieu, c'est immense.
27 pavillons à peu près de la taille d'une place Bonaventure à l'époque.
Là. OK.
Donc, t'as un pavillon, pour t'imaginer, là, tu rentres, Daimler a toujours le premier kiosque en entrant. C'est énorme. Ils prennent une place énorme. T'as Iveco, par exemple, qui est un fabricant. C'est gigantesque. C'est beau. C'est très, très professionnel. C'est très européen. L'éclairage, l'esthétique, c'est magnifique. C'est un beau show. Tu peux avoir un pavillon qui est consacré uniquement aux remorques. Tu peux avoir un pavillon qui est consacré uniquement aux suspensions.
OK.
Donc, c'est gigantesque. Toutes les nouveautés sont là. Il y a des conférenciers de partout dans le monde. Je pense qu'il y a 1200 journalistes qui vont couvrir ça.
Mon Dieu!
Ouais, c'est énorme.
J'imagine que faut que tu te bookes d'avance pour les hôtels et tout ça, parce que tu vas arriver, si tu bookes ça une semaine d'avance, il n'y a plus rien. C'est un peu comme ExpoCam.
Il n'y a plus rien. Nous, on s'est décidé peut-être deux mois à l'avance, puis on a réussi à se trouver de quoi de pas pire. Okay. Mais la première nuit, parce que moi, je suis arrivé une journée avant parce que la journée de la presse, c'est une journée avant l'ouverture du show. Donc, les tarifs hôteliers sont hors show. Je pense que c'était 125 euros ma première nuit.
OK. Puis
mes deux autres nuits, je pense que c'était 425 euros, quelque chose comme ça.
Et tabarnouche.
Ouais, il en profite pas mal.
Oui, oui, je comprends. Mais en termes de... Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces chinoises qui arrivent sur le marché? Parce que pour avoir visité, le plus loin que j'ai été, c'est celui du Mid-America Trucking Show à Louisville, Kentucky. Mais il y avait énormément de pièces chinoises qui cherchaient à rentrer sur le marché. Est-ce que c'est pareil en Allemagne où on tente de percer le marché américain, même percer le marché mondial?
Ben c'est ce que j'ai remarqué de plus cette année. L'édition précédente, ben c'était l'hydrogène là qui retenait l'attention. C'était la première fois qu'on voyait des camions à hydrogène. C'est la première. Là cette année, c'est plus tranquille du côté de l'électrification. Là on le sent.
Okay.
Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la dimension du kiosque d'une compagnie qui s'appelle Sinotruck.
Okay.
En fait, ça appartient. La marque c'est Sinotruck. C'était du même calibre que Daimler et les gros exposants là-bas. Plusieurs camions, des tracteurs routiers. C'est une compagnie qui appartient au gouvernement chinois qui vaut, je pense, 15 milliards de dollars US.
Quand même.
Donc, là-bas, c'est le gouvernement qui est propriétaire du fabricant de camions. Donc, on peut s'imaginer tout ce qui peut se passer en coulisses pour être capable de pousser leurs véhicules sur les marchés environnants. Ils ont déjà eu une entente avec Volvo Camion Europe il y a 10-12 ans. Ça n'a pas duré, mais pour fabriquer des camions ensemble. Donc, ça peut... On n'a pas idée de l'ampleur, de la grosseur de la Chine dans le marché, parce que on n'a pas leur camion ici, à part BYD, là. BYD qui est un fabricant de camions électriques.
Oui, oui.
Mais quand on sort de l'Amérique du Nord et qu'on va là-bas, c'est un énorme joueur. Là. Puis c'est sûr qu'il y a tout ce que tu disais puis qu'on voyait déjà il y a longtemps, toutes les pièces. Tu sais, moi je me rappelle un ExpoCam dans les années fin 90, qu'il y avait des gens qui prenaient des photographies des composantes des remorques Manac et autres, par exemple.
Oui.
Ben, c'était pour les copier, là. Je pense qu'on le sait depuis longtemps. Mais maintenant, la Chine, c'est un énorme joueur mondial en fabrication comme constructeur de camions. Et, ça va être très intéressant de voir. Pour le fun, je me suis informé combien que ça vaut un tracteur routier 2024, Sinotruk. Ça se vendrait autour de 50-60 000 $ US.
Comment?
À peu près 50 000 US, peut-être 60 000 qu'on m'a dit, là, si je vais.
Okay, on parle d'un camion d'highway qu'on pourrait utiliser en Amérique du Nord ici, là.
Ben, c'est tout des cab-overs, comme les camions européens, mais, écoute, c'est sûr que pour les normes de pollution, peut-être qu'il faudrait qu'ils soient adaptés sur certaines applications. Mais ça vaut, c'est ce que ça se vend.
Puis là, tu
vas aller sur Google, puis faites Sinotruk New 2024, puis vous allez arriver dans ces prix-là.
Puis là, est-ce que ces camions-là sont à propulsion fossile, électrique, oui. Hydrogène, oui.
Écoute, ceux que j'ai vus là-bas, que je me suis informé, c'est des camions à combustion interne.
OK.
Puis, écoute, de mémoire, là, il y en a un qui, c'est un de ces camions-là qui vient d'être dans le record Guinness, le livre des records pour la plus longue distance qui a été parcourue par un camion diesel. J'ai pas le chiffre devant moi, là. Vous pouvez aller voir sur transportroutier.ca, on l'a écrit à quelque part, là. Mais c'est la technologie de camion mondiale, parce que c'est dans le Guinness, en tout cas, qui ferait le plus long avec un réservoir de diesel.
Ben voyons. Regarde, y en a pour tous les prix, là, mais sur un camion Sinotruk, ben c'est ça, là. Faudrait que je regarde un vrai prix quelque part, parce que là, on en annonce sur plein de sites, mais il semblerait que, en tout cas, sur des sites chinois, là, pour ne pas les nommer, là, je pense qu'ils ont la pole position. Je pense que, ben, c'est sûr qu'en Chine, on doit t'imposer, là, t'as peut-être pas grand choix, là, mais on doit t'imposer de dire t'achètes chinois avant d'acheter ailleurs. Mais je serais curieux, parce que j'ai regardé, Steve, le modèle Highway, là. Pour un camion européen, je pourrais dire que tabarnouche, ça ressemble pas mal et c'est une copie de ce qui est camion européen qu'on voit à tous les jours, là. Si on parle un camion OWO, un 6x4, ce qui est un 10 roues par ici, là, mais quand même, puis y a pas une grosse différence de look avec le camion européen qu'on connaît aujourd'hui, là. Je sais pas.
D'un point de vue de l'assemblage, ça, écoute, à première vue, ça a l'air très, très correct. Là.
Oh oui.
Je l'ai pas conduit, puis mais il y a un gros joueur là qui est méconnu ici. Là.
Est-ce que tu penses qu'on va avoir ça éventuellement en Amérique du Nord, puisque il y a comme une petite température frette entre l'Amérique du Nord et la Chine actuellement, là, à tel point que, bon, Trudeau a voulu, il a imposé une taxe sur les véhicules chinois pour peut-être pas qu'ils rentrent ici. Les Américains, ça va dépendre de l'élection qui va avoir lieu dans quelques semaines, mais ils sont pas très pro-chinois non plus. Il va peut-être rester le Mexique éventuellement, où il y aura peut-être une genre d'association avec des fabricants de ce côté ici de l'Atlantique qui diront, ben oui, on va fabriquer vos camions, faire la pièce, parce que honnêtement, 50-60 000 piastres américains versus peut-être du 200 quelques mille ici pour nos bolides, on a une marge assez importante où il y a peut-être des transporteurs qui vont dire, ben là, c'est une question de rentabilité, je vais sauter sur le produit chinois, là.
Ben, tout est possible, tu sais. Des années 70, quand les véhicules japonais, là, les véhicules automobiles, les Datsun à l'époque, puis les Honda ont commencé à arriver ici, c'était mal vu. Puis tu sais, il y avait beaucoup de scepticisme face à ces véhicules-là.
Oui.
Et aujourd'hui, ben, c'est une référence de qualité, là, une Toyota ou.
Oui. Effectivement.
Donc, qui sait? La Chine est très, très agressive. Ils veulent développer des marchés. Puis l'Amérique du Nord est le seul marché sur lequel ils ne sont pas présents vraiment.
Oui.
BYD est déjà ici. BYD a une usine d'autobus électriques en Ontario. Oui. Et ils ont une usine de fabrication de camions électriques en Californie. Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'ils diraient que, comment je dirais bien ça, pourquoi une compagnie chinoise de fabrication de camions s'installerait pas ici ou avec probablement en association avec un autre fabricant, comme ça a été fait avec Volvo? Peut-être que un des manufacturiers américains pourrait faire un deal pour vendre une catégorie de camions un petit peu plus abordable, moins premium.
Ouais.
On le saura dans 5-10 ans, mais la Chine, c'est sûr qu'ils voudraient l'avoir, le marché nord-américain.
Regarde ici, là, j'ai trouvé un site, je sais pas si c'est legit ou pas, là, mais tu pourrais te commander 30 unités par mois parce que c'est ce qu'il y a de disponible sur le marché actuellement dans l'usager dans un camion qui viendrait justement de l'entreprise chinoise. Et c'est 371 HP jusqu'à 420 HP, camion usagé, le modèle OWO, O-W-O. Ils sont usagés, donc différentes années. Puis on dit que ça peut prendre entre 10 et 15 jours pour te livrer à peu près partout. Et devine le prix, mon Steve, entre 8 et 12 000 $ l'unité. Hey, m'a dit, là, tu sais, quelqu'un qui remplace 100 camions par année dans une flotte, là, il va peut-être y penser, hein. Peut-être dire, on va en rentrer un, voir ce que ça va donner. Écoute, ici, on n'est pas habitué à ce look-là. Puis, je veux pas dénigrer les camions européens. On est moins habitué à ça. Mais, chose que va peut-être arriver, on va peut-être juste refaçonner un moment donné le câble, puis on va envoyer ça ici, là. Ça prendrait juste ça, puis. Puis on dit que pour les normes, là, on dit qu'il est adapté aux normes Euro 2 pour les émissions. Oh, fait que je sais
ça,
pas.
C'est loin, ça. On est rendu à Euro 6, je pense.
OK. Fait qu'Euro 2, c'est les émissions pour ce camion-là en Amérique du Nord.
Ça, ça ne sera pas accepté ici, là. Pas du tout.
Fait que c'est peut-être pour ça le prix. Puis c'est peut-être, mettons, dans des pays où il n'y a pas de normes de pollution ou d'émissions. Fait que là, il y a probablement des gens qui vont flairer la bonne affaire. Mais peut-être qu'on va aller dans le sud à un moment donné, toi puis moi. On va aller sur le bord de la plage, puis on va regarder les trucks passer. On va dire, oh, misère, on n'avait pas vu ça. Puis ici, ils n'ont rentré quelques-uns à ce prix-là.
C'est pas possible. Et leur marché aussi, pour beaucoup, le camion usagé, c'est... la Russie, la Pologne, tu sais, les pays de l'Europe de l'Est un peu plus.
Ouais.
Eux, ils vont être acheteurs beaucoup de camions usagés européens. J'ai retrouvé là le record Guinness. Là.
OK.
C'est 4871 kilomètres avec 945 litres de diesel. Un plein, qu'ils disent.
4800.
Okay. Presque 5000 kilomètres avec 945 litres de...
T'as dit 4900 quoi?
4871 kilomètres.
4871, puis ils ont mis combien de litres?
945.
Je l'ai peut-être mal calculé, là, mais ça ferait... Il va falloir que je le calcule aux 100 kilomètres, mais c'est un camion qui est assez économique, pas pire. Hein? C'est quand même pas le...
Dans quel contexte ils l'ont fait, ben là, ça doit être tout favorable. Là. Est-ce qu'il était chargé, puis chargé à combien? Mais en tout cas, il est dans le record Guinness. Il faut croire qu'ils sont capables de rouler au moins 5000 km une fois.
Oui, effectivement. Mais ton idée là-dessus, parce que ça fait longtemps que tu écris et que tu fais de la recherche sur ces sujets-là, est-ce que tu penses qu'éventuellement on va le traverser ici ou on va trouver un fabricant qui va accepter peut-être des montées ici? Peut-être qu'on les vendra pas 50, 60 000. On va peut-être les vendre avec un 20 000 de, je sais pas. Mais est-ce qu'éventuellement, tu crois que ça va être transféré ici?
Ben, je vais te répondre par un mot, une marque, BYD. Ils sont déjà ici.
OK. D'une certaine façon. Il y aurait peut-être l'intérêt à rentrer.
C'est sûr que c'est dans l'électrique, mais ça, ils pourraient adapter un camion. Puis aller chercher des acheteurs de camions comme tu cab over ou refaire une cabine.
Ouais.
Moi, la leçon qui m'est restée en tête, c'est que de l'Amérique du Nord, on réalise pas la puissance qu'est la Chine et à quel point ils sont évolués maintenant technologiquement, à quel point, tu sais, on se rappelle tous là les tailles chinois, là, quand les pneus chinois sont arrivés.
Oui.
Mais écoute, il y a un marché pour ça. Puis je suis pas un spécialiste des pneus, loin de là, mais il y a peut-être des flottes qui diraient nous, on achète ça pour certaines applications. Ça fait un job. C'est énorme le potentiel de la Chine au niveau mondial. Fait que moi, je serais pas surpris là, qu'on en voit parce que, encore une fois, BYD est là. C'est un manufacturier chinois. J'ai entendu personne dire ah, c'est de la scrap, c'est de la cochonnerie, ils achètent pas. C'était plutôt, il y avait plutôt de la curiosité. Ah, tu sais, ils sont rendus ici. Fait qu'ils sont rendus ici.
Oui, quand ils sont rendus exposés dans un salon comme celui de l'Allemagne, là, à Hanover, j'ai comme l'impression qu'on a déjà un bon pas de franchi. Mais remarque, je suis pas sûr, là, je vais faire affaire avec ta mémoire un peu. Je pense qu'en 2012-2013, Groupe Robert avait importé des fameux Globetrotters. C'était des modèles Volvo. Puis, tu sais, on a des gars puis des filles ici qui sont très orgueilleux de leur véhicule. Hein, puis moi, je dénonce pas ça. Au contraire, je trouve qu'un beau truck, ça a sa place. Les Globetrotters, c'était des beaux trucks. Mais je sais pas si ça a fait fureur au point que, tu sais, bon, 2013, on est déjà 11 ans plus tard. 2012, mettons, ou 12 ans plus tard. Est-ce qu'il y avait eu une euphorie autour de ces camions-là, selon toi?
C'est sûr qu'il y avait un buzz parce que, tu sais, on se demandait tout. C'est Claude Robert qui avait importé ça, puis il avait fait faire un paquet de tests là, dans le cadre de EnergoTest avec FP Innovation à l'époque.
Oui.
Donc, c'était pour tester un paquet de technologies, comment ça pourrait fonctionner ici. Là. Écoute, ça fait quand même une dizaine d'années. Il y avait un engouement pour l'expérience qui avait été faite, mais là, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Globetrotter. Volvo n'a pas l'intention de faire des camions à cabover ici, parce que c'est vraiment culturel, je te dirais. Les gens, en Amérique du Nord, ça prend un capot. Ça prend un capot long, un camion, c'est le même. À part quelques tripeux de cabover, là, des nostalgiques, il reste que j'ai eu l'occasion d'en conduire quelques fois des Volvo en Europe. C'est pas ce qu'on pense. Si on pense que c'est un camion qui porte dur, c'est un camion qui est assis sur l'essieu, c'est hyper confortable.
C'est confortable, ça vire sur un 10 sous.
Vire sur un 10 sous, c'est cool. La seule affaire, c'est qu'il n'y a personne qui ferait des États-Unis avec les sleepers qu'ils ont en Europe. Là.
Effectivement.
C'est un tort qu'ils ont.
Puis, c'est bien proportionné à l'intérieur, tu sais, le rangement est bien pensé, tout ça. Mais moi, ma crainte, c'est que c'est l'espace qui manque. Puis, éventuellement, est-ce qu'on serait capable de faire un cab qui serait un genre de méga cab? Peut-être, mais c'est quand il faut lever tout ça pour aller travailler sur le moteur, bien, ça devient que c'est lourd, c'est pesant. Puis, je sais pas jusqu'à quel point que culturellement, on est prêt à... Tu sais, il va se vendre, mettons, un cabover, vieux modèle, là, des cassants là, qui ont la pole position, en tout cas, c'est assez mythique comme véhicule. Mais il y en a 10 sur le marché, puis les 10 vont se vendre quand même assez bien. Est-ce que demain, certains autres modèles de cabover vont se vendre aussi bien? Je pense que non. Mais on va l'acheter pour le look et pour la nostalgie qu'il va nous apporter, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de flottes qui se garochent sur le cabover, à moins d'être des comment ça s'appelle dans Beauce Canam qui charissent des poutres qui ont besoin de tellement d'espace qu'eux autres ils ont comme pas le choix.
Transport spécialisé, un peu comme Transport Watson ici, là, ça arrive ça de Montréal.
Effectivement.
La preuve est là qu'il n'y a pas trop d'engouement parce que c'est des camions qui sont disponibles en Amérique du Nord, mais c'est acheté par des flottes qui ont des besoins très, très spécifiques de longueur.
Oui.
Donc, quand on va en Europe, là, justement au salon d'Hanov, je l'ai pas vu cette année, mais la dernière fois, il y avait des espaces vides un peu, puis il avait fait une section en Amérique du Nord avec des véhicules d'ici, comme on connaît, nous, là, des W900, puis les Européens, ils capotent solide là-dessus. Là.
Oui.
Ils aimeraient ça bien plus avoir ça que nous, on aimerait avoir des cabovers.
Oui, effectivement. Puis ils s'en vendraient là-bas. Il y aura un marché à ça parce que c'est un rêve américain. Puis je serais curieux de voir, après avoir rentré, mettons, beaucoup de camions américains en sol français, là, moi, je pense que il y aurait moins de, ben, il y aurait moins besoin de garder leur chauffeur. Je reçois un nombre incalculable de demandes d'emploi de gens de la France parce qu'ils voudraient travailler en sol canadien pour pouvoir justement aller parcourir les États-Unis puis pas avoir trop de barrières linguistiques. Fait qu'il y a, ouais, il y a une demande à ça, puis peut-être que ça rendrait ces camionneurs-là peut-être, en tout cas, il y aurait un sentiment peut-être d'appartenance plus présent dans les dans leur industrie en ayant des camions comme ça. Puis je veux pas dénigrer le cabover, mais tu sais, point de vue aérodynamisme, un cabover, c'est un mur bien plat qui avance dans le vent tout le temps là.
Tu serais surpris, on a eu cette discussion là il y a une couple d'années, que tu peux aller chercher, c'est avec les cabover que tu peux aller chercher le plus d'améliorations aérodynamiques.
Ah oui?
Oui. Il y a une étude là que tu peux probablement le retrouver en ligne à quelque part. Puis cette année, quand ben, pas juste cette année, à chaque fois que les gros manufacturiers, Daimler,
oui,
ils disent tout le temps, on a amélioré l'aérodynamique de 3%. Puis nous, Nord-Américains, on a un petit sourire parce qu'on voit juste une boîte, comme tu dis.
Ben oui.
Mais non, ils sont capables de façonner ça. Puis eux, ils travaillent beaucoup plus en combinaison avec la remorque. Ils vont chercher beaucoup, beaucoup d'améliorations avec les deux véhicules.
Le modèle non, ensemble, là.
Oui, ils vont travailler avec les manufacturiers de remorque pour que ça se marie bien au point de vue d'efficacité énergétique, tirer, traîner aérodynamique. Fait que, oui, tu as une limite à ta boîte carrée, mais quand tu la travailles en combinaison, tu peux aller chercher des bonnes améliorations. C'est surprenant, mais oui. Parce que oui, on a toujours l'impression que c'est juste une boîte, mais apparemment qu'elle se travaille, cette boîte-là.
Qu'on regarde les modèles, bah, 2024-2025, on est aérodynamique versus il y a à peine 15-20 ans dans notre industrie. On travaille peut-être, ben, on a travaillé les remorques en mettant des jupes latérales, tout ça. Mais ici, la remorque est 53 pieds. Je pense qu'en Europe, 53 pieds, ça devient un défi de taille parce que les routes sont pas, peut-être pas adaptées autant. Puis, ici, ben, on parcourt de longues distances. Mais, tu sais, on a quand même fait nos devoirs. Mais versus moi, Tu m'épates quand tu me dis aujourd'hui que le camion avec le modèle européen, dans le fond, là, est rendu assez polyvalent en termes d'aérodynamisme. Ça m'épate d'entendre ça parce que je me dis, c'est un mur de briques, tu sais. Si on traîne, c'est pareil comme le devant d'une 53 pieds, il est bien droit. Si t'as pas le camion qui va garrocher l'air au-delà de la remorque, ben t'as une prise d'air tant qu'à moi, là. Mais en tout cas, tu sais, ils l'ont travaillé. C'est déjà ça, là.
Oui. Ben c'est eux aussi, hein, puis encore plus, peut-être qu'ils ont des grosses préoccupations d'efficacité énergétique parce que le fioul, il est cher en Europe, là, plus cher qu'ici.
On dit pas le fioul, Steve, on dit le gasoil.
Ah, mais ils disent fioul aussi, F-I-O-U-L-E. Okay.
Le
fioul. Ça existe dans le dictionnaire, le fioul. Ouais.
Le fioul. Puis ouais. on salue nos cousins français parce que le gasoil, le fioul, tout ça.
Le gasoil, le fioul. Et les
Kenworths.
Oui.
Ça c'est, faut prononcer le S à l'après. Ça a été quoi ta découverte de l'année? Je comprends là, qu'il y a eu des camions pas chers, mais ça a été quoi ta découverte du salon de l'Allemagne, Steve? Ça a été quoi, mettons, ton coup de cœur cette année?
Coup de cœur? Écoute, je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur parce que c'est des nouvelles technologies. Donc, le plus beau camion du show.
Oui.
Ça reste un camion cabover que nous, on est un petit peu moins impressionnés par le look. Si tu me demandais c'est quoi la tendance que j'ai remarquée, c'est que, je l'ai mentionné rapidement tantôt, l'électrification,
oui,
que ce soit batterie, que ce soit hydrogène, c'est au point, ça atteint un plateau, là. C'est plus la folie, puis demain matin, tout le monde va être électrifié. Là, tout le monde se rend compte que les camions sont prêts, mais qu'il n'y a pas de borne de recharge suffisamment.
Puis il n'y a peut-être pas assez d'électricité dans le monde pour fournir tous ces modèles-là.
Peut-être. Tellement que les manufacturiers, comme les compétiteurs, là, Traton, qui est Navistar, ici maintenant international, Daimler et Volvo, ils travaillent sur des projets conjoints pour développer le réseau d'électrification. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu parler, c'est que les manufacturiers reviennent à des technologies hybrides. Il y a deux, trois places là dans des conférences de presse. ZF, par exemple, a sorti une transmission hybride. Qu'est-ce que ça veut dire, hybride? Ça veut dire que ça peut fonctionner autant, biénergie. Cummins a présenté un système très, très hybride, batterie, moteur à combustion. Donc, moi, c'est ça que j'ai remarqué au point de vue là technologique, c'est que, on va arrêter, là on va se calmer un peu avec l'électrification, puis des batteries partout, puis de l'hydrogène demain matin. On se rend compte que c'est plus lent qu'on pensait, les différents facteurs. Il y a le facteur économique aussi. Là.
Oui, effectivement. Est-ce que il y a juste au Québec où ce qu'on a, disons, que ces idées-là, électrique, tandis qu'il y a plein d'autres carburants alternatifs? C'est-tu mondial?
On est pas mal fort là-dessus, mais je te dirais que Volvo en Europe est le manufacturier le plus axé électrique.
Okay.
C'est celui qui a le plus de modèles. Volvo a comme une douzaine de modèles.
Quand même.
Juste électrique.
OK.
C'est très axé aussi là-dessus, mais avec une petite pause un peu cette année. Là. On se rend compte que... Ben, je reviens à ce que je disais. L'économie étant ce qu'elle est, les flottes vont chercher à maximiser les... Tu sais, il y en a qui rangent des camions dans la cour. Là.
Ouais.
Ils vont pas investir 500, 600 000 sur un camion électrique.
Puis qu'il soit électrique ou n'importe quel carburant, ben s'il reste dans la cour, il est pas rentable. Ça dépend juste du prix que tu as payé. Mais tu sais, c'est parce que je me disais, ici, on va essayer... éventuellement, sûrement, de construire un barrage ou deux pour essayer de pouvoir avoir un peu plus de courant. Mais pour avoir parlé, puis tu parles probablement aux mêmes gens que moi, là, qui disent si demain matin, tous les camions étaient électriques, mais qu'on branche tout ça en même temps, le breaker saute, il n'y a pas assez de courant au Québec pour fournir la demande. Mais tu sais, est-ce que... Et puis j'entendais ça, c'était en fin de semaine à la radio, où on disait, aux États-Unis... on va fabriquer des centrales au charbon, qui est quand même polluant, pour faire de l'électricité pour rendre les véhicules électriques. Ouais. Fait que c'est où à un moment donné, tu sais, puis peut-être que est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, puis je veux pas dire que la technologie électrique est pas bonne, c'est juste que est-ce qu'on aurait pu, au lieu de dire c'est 2035 pour les véhicules puis les camions, ben peut-être emmener à avoir peut-être une meilleure disposition, dire on peut-tu mettre je sais pas, moi, 10% par année, ou puis dans le camion, 5% par année, puis on va aider les compagnies peut-être, puis en même temps, ça nous permet de nous donner du temps pour faire des barrages, puis développer un réseau, parce que aujourd'hui, électrique, là, je suis pas sûr que si tu pars puis tu vas en Floride avec un camion, tu vas être capable de te recharger convenablement partout. Là. Il va probablement avoir des espaces où tu vas dire...
C'est des applications régionales. Là,
c'est, ça. C'est ça. Fait que tu sais, on n'arrivera peut-être pas à la même date, à la même échéance en même temps. Puis même si on disait au Québec, tu sais, j'osais avec des gens là qui ont des carburants alternatifs, là, le gaz naturel notamment, qui peut être une maudite belle option là, tu sais, pour réduire les émissions, qu'ils enlèveront pas complètement, mais qui vont les réduire de façon très importante. Mais moi, je pense que on devrait, si j'étais à la place des gouvernements, j'opterais dans le transport pour dire, est-ce qu'on est capable de trouver un carburant ensemble alternatif, puis qui va être capable d'être, disons, disponible partout en Amérique du Nord à peu près en même temps? Ben là, tout le monde y gagnerait, je pense.
Oui, quand même. Tout le monde s'entend de plus en plus que ça va prendre une complémentarité d'énergie. Tu sais, on parle pas du solaire, mais dans 5-10 ans, il est là le soleil, là, la plupart du temps. Là. Pourquoi on pourrait pas ajouter cette énergie-là éventuellement? Mais ça va se faire du jour au lendemain, puis ça ne sera pas qu'à batterie électrique, c'est impossible. Pour différentes raisons, dont celle que tu as évoquée, que il y a des places où c'est pas écologique du tout de fabriquer l'électricité. Donc, à cet endroit-là, est-ce que le gaz naturel serait plus écologique? Possiblement.
Oui.
Puis, quand on va dans les conférences des gros manufacturiers, on entend de plus en plus dire, ah, ben là, on parle à zéro net, hein, pas d'émissions, pas tailpipe zero, là. Il y a toutes sortes de termes pour dire, bon, sans émissions.
Oui.
Zéro, mais là, on commence à dire, ben, si ton gaz naturel est renouvelable, ben là, t'es carbo positif. Tu sauves plus de carbone que t'en produis. Fait qu'on pourrait embarquer ça dans le mix. Puis, probablement que le gaz naturel va faire partie des technologies sans émission. Fait qu'il y a un assouplissement, là, tu sais. On a beau dire, c'est pas toutes des épais non plus là, qui sont qui prennent ces décisions-là. Il y en a quelques-uns de pas si pire, qui se rendent compte. On vise là, mais on va s'ajuster si c'est pas possible.
Oui, effectivement.
C'est pas peut-être 2035.
Ben, on pourra pas arriver à 2035, puis même si le rêve de nos gouvernements arriverait à faire flancher tout le monde, c'est même dans l'automobile. Moi, j'ai des gens qui disent non, l'électricité, moi, je veux rien savoir de ça, puis je suis pas rendu
surtout,
là.
Surtout si tu vas appeler civil, tu retrouves même pas ton char après.
Ben, veux-tu qu'on en parle là, ou?
Ben, j'ai ouvert la porte.
Ben, c'est parce que Steve est venu en studio, comme il vient régulièrement en studio ici, ou venez nous voir, venez nous serrer la main, ou tout ça, puis a fallu qu'il se charge, puis je me rappelle plus, c'était dans, en tout cas, il y a quelques places ici, là, où tu peux te charger, puis quand est arrivé le temps à 17h de partir, ben, là, j'ai envoyé Monica le porter, mais l'auto était rendu introuvable parce que...
parce que les bornes sont toutes dans le même paquet à s'appeler civil.
Oui, puis mais quand même, est-ce que les bornes sont assez puissantes pour te redonner tu sais, en une heure d'entrevue ici, est-ce que ça t'a permis de retrouver une charge complète ou?
Ben, il y a des choses à perfectionner, comme je vais essayer de faire ça rapidement. Tu vois une borne lente de niveau 1, non, je peux pas me recharger suffisamment en 2 heures.
Okay.
Si je vais à une 100 kWh, ben oui, je vais être prêt à repartir à 80% en okay. moins d'une heure.
Okay.
Mais encore une fois, Place Civil, toutes les bornes sont tellement dans un peu dans le même coin sans être toutes regroupées que je me suis retrouvé dans une plus lente que ce que j'aurais pensé. Mais ça m'a donné assez le jus, là. Je pensais d'être à une 100 kilowatts, puis j'étais peut-être à une 50 kilowatts, mais
tu n'as non,
pour honnêtement, c'est de plus en plus facile de se charger au Québec. Là,
c'est parce qu'ici, je pense que quand ils ont décidé de mettre des bornes de recharge, je pense qu'ils ont choisi des terrains qui étaient, premièrement, sont dans le vieux centre-ville. Il aurait pu mettre ça, ne serait-ce que au centre d'achat ici, il y a de la place en masse, ne serait-ce, tu sais, au lieu de mettre ça dans le centre-ville où il y a peu ou pas de personnes, puis d'après moi, tu sais, elle devait pas être bien usée, la borne, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. C'est peut-être des gens comme toi qui ont affaire ici, qui vont la recharger. Mais encore là, ça a pris un moteur diesel pour aller te chercher, là, tu sais.
C'est sûr.
T'étais plus zéro émission, là, t'as quand même bouffé.
Ben, j'aurais pu marcher, c'était pas très loin.
Ouais, je comprends, mais tu sais, même ici, il devrait en avoir une ou deux, ça serait pas pire, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est de l'investissement pis tout ça. Hey, je veux pas passer sous silence qu'il y a un gros show qui s'en vient au mois de février prochain.
Oui.
C'est le salon ExpoCam. Là, les gens peuvent aller te serrer la main puisque là, ils t'entendent ici à Truck Stop Québec, vont pouvoir aller serrer la main à Steve, mais ça s'en vient, puis ça va être un maudit beau show. J'ai sorti un petit peu plus tôt aujourd'hui des billets gratuits, tu sais. Puis tu sais qu'on a toujours un petit concours ensemble, hein, du nombre de billets. Fait que, vu que ton ami Denis prend sa retraite prochainement, ben j'y ai promis une maudite belle volée cette année. Fait que,
Je le souhaite. Ça serait agréable.
Fait qu'avec Martin, ben, tu sais, ils peuvent continuer à essayer, mais ils arriveront pas à notre cheville. C'est de même que j'y ai dit, mais on verra bien. On peut l'agacer quand même, mais c'est de retour au centre-ville de Montréal.
Oui, grosse nouvelle, ça.
Ça, m'a dire, c'est un coup de chapeau que vous avez fait. Pas que c'était pas bon à Saint-Hyacinthe, mais tu sais, des fois, il y a du nightlife. Il y a aussi la proximité d'un centre-ville. Des gens partent de partout pour venir à ExpoCam, des États, de l'Ontario, de l'Ouest canadien, de partout au Québec. Fait qu'il y a des belles rencontres qui se font. Fait que, tu sais, là, t'as un choix de restaurant aux alentours qui va être un peu plus grand. Et bon, ben, ça va permettre aux gens de pouvoir aller exposer. Tu sais-tu s'il restait, j'ai pas parlé à Thierry, mais tu sais-tu s'il restait quelques places au Palais des Congrès?
Oh, il en restait pas beaucoup la dernière fois que j'ai parlé, puis ça fait près de 2 mois.
OK.
Donc, il reste peut-être quelques places, là. S'il y a des gens intéressés, c'est d'appeler Denis Arsenault ou Martin Pratt, là, à Newcom.
Qui vont Newcom pouvoir les aider, naturellement. Il y a le garage ouais. ExpoCam que j'ai le plaisir d'animer depuis l'année, depuis 2 ans, parce que c'est aux 2 ans que ça revient.
Ouais.
C'est toujours un... Moi, j'adore de voir la relève de mécaniciens et mécaniciennes. L'année passée, il y avait deux ou trois mécaniciennes. M'a dit, tabarnouche, je lui laisserai mon véhicule, puis d'après moi, il démonte le moteur, puis il le remonte sans aucun souci. J'ai trouvé ça vraiment le fun de voir à quel point qu'ils étaient engagés et passionnés d'être des mécaniciennes, tu sais. Puis,
il en manque tellement, là.
Mais, hein? C'est un domaine qui est incroyable. Puis je pense que les centres de formation de mécanique de véhicules lourds, s'ils pouvaient en avoir 200 de plus, ils les prendraient. Ouais. Mais c'est une rareté aujourd'hui. Hein. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Mais c'est tellement un beau métier aussi, surtout dans le véhicule lourd. Là, tu sais. Mais on a eu de la compétition durant la pandémie. Oui,
pardon?
On a eu de la compétition durant la pandémie. Fait qu'il y a des jobs qui se sont retrouvés plus en demande que d'autres choses, là, tu sais.
Oui, mais ça, les jeunes sont... Je pense qu'il y a une méconnaissance de ce que c'est devenu le mécanicien diesel. Là, c'est plus du mécanicien électronique, là. J'en prends rien à personne. Un camion, maintenant, ça se règle pas mal tout par laptop puis branchement électronique. Puis
oui, c'est vrai.
C'est sûr qu'il y a encore des composantes mécaniques, mais tout l'aspect diagnostique, là, quand t'en parles avec des gens qui sont bons en diagnostic, ça a l'air fascinant. Là. J'ose des fois, je vais à la Société des surintendants de transport, là, ils ont une réunion.
Oui, oui.
Puis c'est tous des gars de mécanique. Moi, je suis fasciné d'entendre ces gars-là parler de leur métier puis des enseignants en mécanique diesel, à quel point c'est rendu de la haute technologie là, de travailler sur un véhicule. C'est plus les deux mains dans la graisse nécessairement comme c'était avant. Là.
Non, ça c'est vrai, puis ça a quand même bien évolué. Steve, on peut te lire à tous les mois dans le prestigieux magazine Transport routier. Si je veux être abonné, c'est quoi les modalités que ça me prend? Faut que je sois une compagnie de transport, naturellement. Camionneur, ben j'ai des frais à payer si je veux m'abonner.
Oui, ben en fait, toute personne, il y a un questionnaire à remplir. Là, on demande pas d'argent si vous vous qualifiez, c'est-à-dire si vous avez un pouvoir décisionnel d'achat pour au moins un camion.
OK.
Si vous décidez de l'achat de l'huile pour un camion, vous vous qualifiez.
OK.
Sinon, ben il y a des frais minimes là. Puis vous pouvez aussi aller sur transportroutier.ca. Là, à tous les jours, il y a des nouvelles, si on peut le dire. Puis des
page Facebook
produits.
Aussi.
Oui, Facebook. Quand on met à jour nos réseaux sociaux avec à mesure qu'on met des nouvelles sur le site. Okay. C'est alimenté au quotidien. Transportroutier.ca, là, c'est accessible évidemment à tout le monde.
Good, c'est la référence.
Bon, on essaie.
Lâche pas, Steve. Merci beaucoup.
Salut, merci.
On fait une courte pause, restez là.
T'as jamais compté tes heures, mais là, tu sais que t'aurais peut-être dû. À peine le temps d'arrêter pour manger.
Après cette pause,
encore plusieurs sujets à venir.
Rock Stop Québec.
Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 grammes au prix du 350 grammes. C'est 20% de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10% de rabais. C'est disponible chez les marchands participants.
La Foire de l'emploi du camionnage, 19 octobre prochain au Centre des congrès de l'Hôtel Mortagne, 1228 rue Nobel à Boucherville. C'est là où les entreprises et les talents se rencontrent vraiment. Un événement dynamique et authentique où chaque poignée de main compte. Pour exposer, contactez Jean-Raymond Promoteur au 514-923-8531. On se voit à la Foire de l'emploi du camionnage. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou L'Apocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés.
On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030, poste 285. Et sur le web, gilmire.com. ExpoCam. Le plus grand salon de l'industrie se déroule du 6 au 8 février 2025. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises, reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD.
The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, escompte pour l'achat de pièces, rabais pour clinique médicale privée, firme d'avocats spécialisés, affacturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez la RPQ à arpq.org.
Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec,
de partout en Amérique du Nord,
compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com.
Sinon, via Facebook.
Truck Stop Québec,
la radio des camionneurs.
TSQ.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Truck Stop Québec.
Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team vers l'Ouest canadien ou américain disponible. Vous devez posséder un passeport valide. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
Photos, vidéos, faits cocasses.
Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec.
En SMS
au 819-362-6089.
24/24.
TSQ.
Oh ouais?
C'est Truck Stop Québec.